J'aimerais commencer tout de suite avec la lecture de notre texte pour aujourd'hui, 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 à 19. 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 à 19. Qui dit ceci. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ça m'intéresse de savoir ce qui vous vient à l'esprit, justement, quand vous entendez parler de l'Esprit-Saint ou du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un mot qui s'associe à lui, qui vient tout de suite, une image, peut-être un souvenir ou une émotion? J'aime bien ce genre de questions parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a beaucoup de bonnes réponses à cette question. Et justement, dans le texte 1 Thessaloniciens, juste quelques chapitres avant ce qu'on vient de lire, en chapitre 1, Paul va faire référence à plusieurs reprises à l'Esprit-Saint et c'est intéressant de voir ce que lui, il a en tête quand il pense à l'Esprit. Donc, Paul se souvient de la première fois quand il a prêché l'Évangile à ceux qui étaient à Thessalonique et il dit ceci. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, que Dieu vous a choisi parce que notre évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint et avec une pleine conviction. Et le mot « puissance » ici fait probablement référence à des miracles qui ont accompagné la prédication de l'Évangile, comme c'était souvent le cas dans le ministère des apôtres. C'est probable que le mot « conviction » ici fait référence au fait que quand ceux qui ont entendu l'Évangile, en fait, grâce à l'Esprit-Saint, ils étaient convaincus de la véracité de ce message et ils ont pu croire. Il y en a qui disent que ce mot « conviction » fait référence aussi à la puissance ou à l'énergie avec laquelle le message était annoncé, une conviction chez Paul et ses compagnons quand ils ont prêché ce message. Et je ne serais pas surpris si pour certains d'entre vous, le mot « puissance » vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'Esprit-Saint, peut-être même ce mot « conviction » aussi. Mais un troisième mot associé à l'Esprit qui vient juste dans le verset qui suit, en verset 6 de chapitre 1, ici en 1 Thessaloniciens. Et je vais lire ce verset aussi. Donc Paul continue, il dit « Vous-même, vous les frères et sœurs de l'église de Thessalonique, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. » Et cette phrase-là m'intéresse beaucoup. Avec la joie du Saint-Esprit. Et ça m'intéresse de savoir pour qui, quand j'ai posé la question au début, quel mot, quelle image, qui avait le mot joie en tête? Ah ouais, Chloé? Ah ouais, Luc, vous êtes plusieurs. Paolo, Mika aussi. J'avoue que quand moi, en général, quand on me pose cette question, c'est pas joie qui vient tout de suite. Pas du tout. Alors que là, cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps à étudier le lien entre la joie et le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament et un petit peu dans l'Ancien aussi. Et j'étais émerveillé par tout ce que j'ai découvert. Et j'aimerais vous partager un petit peu de ce que j'ai vu en lien avec notre texte pour aujourd'hui. La volonté de Dieu, selon notre texte, c'est que nous soyons toujours joyeux. Vous avez vu ça? Au début, que nos vies soient caractérisées par ce qu'on va appeler aujourd'hui la joie du Saint-Esprit. Je vous montrerai pourquoi. Et cette joie, comme dit Paul, est intimement associée à une expérience continuelle, constante même, de deux choses. De la prière et de la reconnaissance. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Et donc voici mon objectif principal pour aujourd'hui, pour ce temps ensemble. C'est que chacun de vous, d'ici la fin du culte, décide de ne plus tolérer l'absence de joie dans votre relation avec le Seigneur. Tolérance zéro pour une vie sans joie. Tolérance zéro pour une vie d'église sans la joie du Seigneur. Bon, c'est ambitieux comme objectif, mais restez avec moi. Justement, c'est tellement ambitieux que j'ai envie de prier, demander de l'aide de la part du Seigneur. Voilà, pour qu'on comprenne ce passage et que ce passage exerce une vraie influence dans nos vies. Donc, prions. Ou quelques petits versets, ici en 1 Thessaloniciens, et beaucoup de grandes vérités derrière. Seigneur, nous avons besoin de toi pour comprendre qu'est-ce que toi tu veux dire quand tu utilises un mot comme ce mot « joie », quand tu parles de la prière et de la reconnaissance et de l'esprit. Et je sais que ceux qui sont là aujourd'hui ne s'intéressent pas du tout à ce que pense Nicolas de ces choses. Si nous sommes là, rassemblés en ton nom, c'est parce que nous voulons savoir, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux dire quand tu emploies ces termes et quand tu mets ces différents mots ensemble dans les mêmes versets. Nous sommes dépendants de toi, Seigneur, et particulièrement dépendants de ton Esprit Saint que tu nous donnes pour nous apprendre, pour nous accompagner, et oui, pour nous donner la joie. Je prie que ce soit le cas pour nous aujourd'hui et qu'en partant d'ici aujourd'hui, qu'on parte avec cette prise de décision de ne plus tolérer une vie sans joie, sachant que c'est ta volonté que nous soyons toujours joyeux, toujours dans la prière et dans la reconnaissance avec l'aide de ton esprit. Amen. Ok, bon, pour ceux qui n'étaient pas là peut-être les dernières quelques semaines, nous sommes au milieu, même un peu vers la fin, d'une petite série autour du thème de la volonté de Dieu. Et j'ai introduit la série le 3 juillet, en parlant de la volonté de Dieu pour toute l'humanité. Nos mots clés étaient le mot « gloire » d'un côté, avec aussi un lien très fort avec l'amour. Le titre que j'ai proposé pour cette série, c'était « Progresser encore, accomplir la volonté de Dieu en attendant le retour de Jésus-Christ ». Et notre livre principal, on va dire, même si on ne fait pas tout le livre, c'est 1 Thessaloniciens. « Progresser encore », c'est une des exhortations principales de cette lettre de l'apôtre Paul. Et nous mettons un accent particulier sur le chapitre 5 et les versets 12 à 24. Et donc aujourd'hui, comme vous avez vu, on va se concentrer sur les versets 16 à 19 que je relis. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » La semaine dernière, on a regardé les versets juste précédents, versets 12 à 15, et là, on a parlé plutôt de la volonté de Dieu pour nos relations les uns avec les autres. On a mis l'accent sur l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, et particulièrement pour ceux qui sont plus difficiles à aimer dans le contexte de l'Église. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la volonté de Dieu pour notre communion avec lui. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on vive en communion avec notre Dieu? J'aimerais juste proposer trois points très simples. D'abord, j'aimerais définir plus ou moins, ce n'est pas facile comme mot à définir, mais je vais essayer de définir un petit peu le mot « joie » d'un point de vue biblique. Deuxième point, j'aimerais vous donner un petit aperçu du lien fort qui existe entre la joie. Lily n'est pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire là. Pas de joie là-bas. On va prier pour elle. Plus de Saint-Esprit. Donc, je vais vous donner un petit aperçu du lien entre ce mot joie et l'Esprit Saint. Pourquoi je fais ce lien-là, en lien avec notre texte? Est-ce que c'est bibliquement justifiable? Et puis, troisième point, j'aimerais décrire le rôle de la prière et de la reconnaissance dans notre expérience de joie. Quel est le lien entre ces différents mots? Donc d'abord, décrire la joie. Il s'agit de quoi exactement? Eh bien, le psaume que notre frère David vient de lire, un psaume de David justement, le psaume 16, nous donne quand même une très bonne base pour une définition du mot joie. Je ne vais pas tout relire, mais si vous pouvez juste rechercher ce psaume rapidement dans vos Bibles, le psaume 16, et si quelqu'un, je n'ai pas la page dans la Bible blanche en tête, mais si quelqu'un trouve... 373, merci Paolo. Donc le psaume 16, je vais juste, on va juste projeter, l'heure peut-être prochaine, ouais voilà, quelques mots-clés qu'on voit en lien avec la joie dans ce passage. On voit le mot « allégresse » en lien avec nos cœurs et notre esprit. Le mot « sécurité » en lien avec le corps. On trouve le mot « espérance » qui est très souvent associé à la joie dans la pensée biblique. Et c'est une espérance, justement, qui vise la vie après la mort. Qu'est-ce qui va se passer pour moi après la mort? On voit un lien avec la présence du Seigneur. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Et il y a un lien fort aussi avec le bonheur éternel. C'est un ensemble de mots qui s'associent à cette idée de joie, la joie du roi David qui, dans une situation d'épreuve, qui cherche refuge en Dieu et qui est justement dans une vie de prière constante. Il dit « Je suis constamment avec toi ». Et son expérience, un peu le fruit de cette expérience de prière constante, une conscience de la présence du Seigneur qui est constante, c'est une expérience de joie. Donc avec ces quelques mots en tête qui viennent du psaume 16, on voit aussi dans les Écritures que la joie de l'Esprit-Saint, c'est une réponse émotionnelle. Oui, c'est émotionnel quand même. C'est une réponse émotionnelle, un aperçu de la gloire de Dieu. Et ceci souvent en lien avec son projet bienveillant de salut. Là, on voit que David, il se rappelle du fait que Dieu est là pour le secourir dans son existence actuelle, au niveau de son cœur et son esprit et son corps. Il est là maintenant et il me rassure. Il y a de la joie quand je me souviens du fait que Dieu est là pour moi actuellement et aujourd'hui. Mais il y a aussi une conscience du fait que Dieu va me garder dans l'au-delà. Et donc, il se souvient du projet bienveillant pour lui, son salut. Et ce souvenir, ce rappel du grand projet bienveillant, c'est une source de joie pour lui. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette expérience de joie, c'est quelque chose qui arrive souvent au milieu de l'épreuve. C'est incroyable à quel point la joie, dans la pensée biblique, c'est quelque chose, c'est quasiment exclusivement quelque chose qui est vécu en situation de difficulté. Bon, c'est pas exclusivement, il y a quelques exceptions, mais très très souvent, la joie, c'est quelque chose qu'un croyant qui cherche refuge en Dieu, comme fait David ici en psaume 16, il va vivre dans l'épreuve, en se rappelant des grandes vérités du salut de Dieu. En Jésus-Christ, par le moyen de son Esprit Saint, Dieu agit pour nous accompagner dans l'épreuve, dans le temps présent, aujourd'hui, et pour nous délivrer de l'enfer dans la vie après la mort. Il y a une joie qui s'attache à ces grandes vérités. Et ce qu'on voit dans le psaume 16, c'est que le roi David, face à la difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il médite ces grandes vérités dans un moment de prière. Il médite la grâce de Dieu pour lui aujourd'hui et la grâce de Dieu pour lui demain. Et c'est souvent justement l'absence d'une conscience de ces deux dimensions de la grâce de Dieu, sa grâce pour aujourd'hui et sa grâce pour demain, qui fait que j'ai du mal à accéder à la joie qui vient de Dieu. Je peux vous poser la question, si aujourd'hui vous ne vivez pas une expérience de joie, peut-être une question qui suit, c'est est-ce que vous faites l'effort de vous souvenir, comme fait David ici dans le psaume 16, des grandes vérités de Dieu, un Dieu qui est est avec toi dans l'épreuve aujourd'hui et un Dieu qui promet de te préserver après la mort. Et c'est en oubliant souvent ces grandes vérités que, justement, on s'éloigne de la joie du Seigneur. Et donc, ce sera la découverte pour certains et le rappel pour d'autres de ces grandes vérités qui nous donnera accès à la joie de Dieu. Et cette joie précise, comme on découvre dans le Nouveau Testament, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. C'est un des fruits de l'Esprit Saint, cette joie-là, celle qui s'associe à l'annonce de l'Évangile. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment remarquable dans l'Évangile de Luc, chapitre 10. Jésus a envoyé ses disciples aller en voyage missionnaire. Vous vous souvenez de ça? Et les disciples partent pour aller prêcher le royaume, pour guérir, pour chasser les démons. Et les disciples reviennent pour raconter à Jésus tout ce qu'ils avaient vécu. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils disaient? Eh bien justement, c'est exactement ce que dit Jésus, mais pas tout de suite. Parce que les disciples ont beaucoup de joie d'abord. Pourquoi? On a chassé des démons. Waouh! Quelle joie! Et c'est vrai qu'il y a une joie qui s'associe à peut-être des choses extraordinaires qui sont vécues dans le contexte du ministère. Mais ici, Jésus dit exactement comme Camille vient de le citer, et on a, je pense, le texte derrière moi. Jésus dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Jésus les fait revenir à l'Évangile, à la bonne nouvelle du salut, par la foi en un Dieu de grâce qui prend soin de nous. Jésus veut que la joie de ses disciples vienne des grandes vérités de l'Évangile. Et il va continuer avec le verset 21. Et regardez ce qui se passe, c'est incroyable. À ce moment même, donc Jésus vient de ramener les disciples à l'Évangile. Et on voit, à ce moment même, Jésus fut rempli de joie par qui? Par le Saint-Esprit. Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses, ces grandes vérités, aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées à des enfants, des petits, des pauvres, les humbles, ceux qui reconnaissent leurs grands besoins de toi. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Je ne sais pas si vous reconnaissez le lien entre ce passage et ce qu'on a vu en 1 Thessaloniciens 5, mais qu'est-ce qu'on a là? On a la joie, on a le Saint-Esprit, on a la prière et on a la reconnaissance dans l'expérience de Jésus. C'est incroyable de retrouver tous ces éléments-là présents à un moment où Jésus prêche l'Évangile à ses disciples. Rappelez-vous de ces grandes vérités, et l'Esprit est là à ce moment-là pour le remplir de joie. Bon, il y a tellement de choses à dire au sujet de ce lien entre l'Esprit Saint et la joie dans le Nouveau Testament. On va juste mettre un petit diapo qui vous montre tout un tas de versets où on voit ce lien dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez prendre en photo. Ce que je voulais suggérer, c'est que peut-être on va mettre le lien au diapo dans le groupe Crazy Info cette semaine, parce que franchement, vous allez vous régaler en prenant du temps. Oui, ça vous va? Juste en parcourant ces différents textes où on voit ce lien entre l'Évangile, entre l'Esprit Saint, entre la joie. Et on voit à quel point ces associations ont de l'importance dans la pensée de Dieu. Mais je suis conscient du fait que j'ai pas beaucoup de temps qui me reste. Donc, on va continuer au deuxième point. Parfois, comme on voit en Luc 10, l'eau de la joie du Saint-Esprit tombe du ciel comme de la pluie. C'est un moment spontané où Jésus, en annonçant l'Évangile à ses disciples, il fut rempli de la joie du Saint-Esprit. C'est un moment de joie spontanée qui découle naturellement d'une prise de conscience. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Sa volonté, c'est que sa gloire soit révélée aux petits et aux pauvres de ce monde. Alléluia! Mais, d'autres fois, comme je crois c'était le cas pour les frères et sœurs de l'église de Thessalonique, qui étaient probablement confrontés par des conflits, des tensions, des relations peut-être compliquées avec les responsables. Voilà une des raisons pour laquelle Paul a pris le temps pour écrire, pour les encourager à progresser encore dans leur amour les uns pour les autres. Parfois, la joie ne vient pas tout naturellement, de manière spontanée. Parfois, on enchaîne les journées de canicule, comme on fait actuellement, où le soleil tape fort et les nuages gonflés d'eau ne se trouvent nulle part. Et voilà pourquoi la Bible nous présente la joie à la fois comme une conséquence, parfois, ce que Jésus a vécu en Luc 10, et parfois comme un choix. Parfois, c'est une conséquence tout naturelle, et parfois, la joie, c'est un choix. Voilà pourquoi Paul va dire « Soyez toujours joyeux ». C'est bizarre! Si la joie, c'est juste un ressenti, c'est ça vient ou pas, je l'ai ou pas, je ne maîtrise rien en ce qui concerne la joie. Paul, comment est-ce que tu peux oser me dire, Nicolas, sois toujours joyeux? Ben, il y a des moments pas du tout joyeux dans la vie, Paul. Je suis désolé. Donc, si ce n'est qu'une conséquence, quelque chose que je subis, ça n'a pas de sens de me dire, sois dans la joie, Nicolas, toujours. Réjouis-toi. Mais Paul sait que la joie pour un croyant, c'est parfois un choix. Peut-être ça vous surprend, hein? Peut-être vous vous posez la question, mais Nico, attends, mais qu'est-ce qui explique que si j'ai l'Esprit Saint qui habite en moi, si Dieu est toujours avec moi, qu'est-ce qui explique que le fait que la joie ne soit pas mon expérience constante? Que je ne sois pas dans la joie à un moment donné. J'aimerais suggérer qu'une réponse à cette question parmi d'autres viendra de nouveau de notre ami, le roi David, dans le psaume 51, où David il est en train de confesser son péché après son adultère avec une femme qui s'appelle Bathsheba, la femme d'un de ses soldats. Et il dit ceci en verset 12 du psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Bon, peut-être on aura du mal à s'identifier à l'expérience de David, adultère, meurtrier. Mais heureusement, Paul va nous dire quelque chose de très similaire dans le Nouveau Testament en parlant d'un domaine qui est bien plus proche de nos expériences de tous les jours. Et là, je fais référence à Éphésiens chapitre 4, où Paul dit ceci. Bon, déjà, tout au début du chapitre, pour donner un petit peu de contexte, Paul, il dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Paul sait très bien que dans le contexte de l'Église, comme dans n'importe quelle famille, ce sera difficile parfois de se supporter. Donc, il faut nous encourager. « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on s'efforce? Parce que c'est difficile de vivre ça. Et l'apôtre Paul le sait. Mais un petit peu plus tard dans ce même chapitre, avec ses idées en tête, Paul dit ceci. Donc, il cherche quoi? L'unité de l'esprit, le lien de la paix. Il dit « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Intéressant. Nous verrons la semaine prochaine un lien fort entre ce que Paul appelle ici de bonnes paroles qui édifient et qui transmettent une grâce dans le contexte de l'Église et le genre de prophétie dont il est question en verset 20 de notre texte en 1 Thessaloniciens 5. Dans les deux cas, l'Esprit Saint est retirés ou empêchés par un manque d'amour dans nos relations les uns avec les autres. Et je ne vais pas plus loin, petit teaser pour la semaine prochaine. Et parfois, à cause de quelque chose de malsain dans ma relation avec Dieu, ça peut être un péché caché, par exemple, que je refuse de confesser, comme pendant un temps, c'était le cas pour le roi David. Ou à cause de quelque chose de malsain dans ma relation avec quelqu'un d'autre, un frère, une sœur, quelqu'un d'autre de mon entourage, peut-être la conséquence d'une parole blessante ou d'une mauvaise attitude, je trouverai difficile d'accès à la joie de l'Esprit-Saint pendant une période de ma vie. L'eau ne tombe pas du ciel, je ne me réjouis pas de mon salut. C'est difficile de prier, je n'ai pas envie d'aller me retrouver avec les frères et sœurs à l'église. Je me sens loin de Dieu, de sa présence, de ses promesses et de tout le bonheur qui s'y associe. Et la question qui se pose, c'est que puis-je faire dans les moments comme ça, quand la joie est éloignée de moi? Mais quand j'ai décidé de ne pas tolérer l'absence de la joie de l'Esprit dans ma vie. Et pour conclure, j'aimerais proposer une réponse à cette question avec une description du rôle de la prière et de la reconnaissance dans notre expérience de la joie. Je vais terminer avec cette idée. Et pour m'aider avec ce dernier point, j'aimerais vous attirer les regards vers un autre texte qui est, on peut presque dire que c'est un passage parallèle en Philippiens chapitre 4, où Paul, il emploie les mêmes termes qu'il est en train d'employer ici, dans un contexte assez similaire. Chapitre 4 de Philippiens, c'est intéressant de noter que Paul s'adresse ici à une situation de conflit relationnel entre deux femmes dans une église. Et il les nomme directement Évodie et Saint-Tiche. Je ne sais pas comment ça se prononce en français, vous dites comme ça, Saint-Tiche, qui apparemment ont combattu pour l'évangile avec Paul. Et c'est possible que ces femmes aient un certain statut dans l'église locale. C'est parmi les collaborateurs de Paul. Mais là, il y a apparemment quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Et Paul demande à ces femmes de chercher la paix, de se mettre d'accord, de vivre en plein accord l'une avec l'autre. Et c'est suite à cette exhortation-là que Paul dit ceci en verset 4 de Philippiens. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur !» Donc même au milieu de cette situation de tension relationnelle au sein de l'Église, « Je vous appelle à vous réjouir. Dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne l'oubliez pas. Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas si Paul avait un passage en particulier en tête quand il a écrit ceci, mais en lisant ces versets, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que dit Jésus concernant l'Esprit-Saint en chapitre 14 de Jean, où il parle de l'arrivée, de la venue de l'Esprit-Saint. Il dit « Le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et je crois que Paul, comme Jésus, fait un lien très fort entre la paix et l'œuvre de l'Esprit-Saint parmi nous. Bon, il y a énormément de choses que je pourrais dire pour expliquer comment prier, comment exprimer sa reconnaissance, pour retrouver de la joie dans le Seigneur. Mais ce que j'ai décidé de faire, plutôt que de proposer d'autres explications, c'est je voulais juste prier. Je vais faire quelque chose un petit peu bizarre. Je vais juste prier une prière modèle. Et ce n'est pas une prière que je prierai en public comme ça. Il faut que vous utilisiez un petit peu vos imaginations pour m'imaginer tout seul dans mon bureau. Je suis au milieu d'une situation de tension relationnelle, quelque chose qui ne va pas. Et je ne vis pas la joie. Et je prends conscience du fait que je ne suis pas joyeux. Et en fait, je n'ai pas envie de prier. Mais dommage, j'étais là dimanche, j'ai écouté la prédication de Nicolas et j'ai pris décision de ne plus tolérer l'absence de la joie. Maintenant, je dois faire quelque chose. Et donc, je prie. Bon, je vais prier. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez ou juste m'écouter. Et ce sera juste une prière modèle pour terminer notre temps ensemble. Ce sera peut-être intéressant pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de prier. Juste avoir un petit aperçu, c'est comme je vous invite un peu dans mon intimité avec le Seigneur. Et vous pouvez écouter un peu le langage, vous allez voir, c'est pas trop bizarre, c'est juste un langage de tous les jours. Mais je cherche à garder en tête ces différentes vérités qu'on a vues aujourd'hui et vivre ce que Paul m'encourage à vivre ici en 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc je vais prier ma prière. Bon, me voici, Seigneur. J'ai envie de m'approcher de toi, de parler avec toi, mais je ne sais même pas quoi dire. Ça fait un bon moment depuis la dernière fois que j'ai vraiment prié et je me sens franchement un peu perdu, un peu éloigné de toi. Il y a tellement de pensées qui trottent dans ma tête, tellement d'émotions dans mon cœur, je ne sais pas par où commencer. Je n'ai pas les mots. Et je te demande de m'aider, Seigneur, s'il te plaît. M'aider à trouver mes mots. Bon, je me souviens que dimanche dernier, suite à la prédication, j'ai décidé de ne plus tolérer l'absence de joie dans ma vie. Ben, me voilà sans joie, encore une fois. Mais je me souviens que le texte parlait de la prière et de la reconnaissance en lien avec la joie. Et donc, je vais essayer de commencer avec ça, avec la reconnaissance. Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour le cœur qui continue à battre dans ma poitrine et pour l'air que je respire. Merci pour ces yeux qui voient et pour des oreilles qui entendent et pour mon cerveau qui fonctionne plutôt bien. Merci pour les belles montagnes qui m'entourent. Merci pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants. Merci pour la bonne discussion que j'ai pu avoir avec mon fils hier soir. Merci pour mes amis qui m'aiment et les frères et sœurs en Christ qui me soutiennent et qui m'encouragent à ne pas baisser les bras. Et oui, Seigneur, merci aussi pour le pardon. Je sais que tu me pardonnes grâce au sacrifice de Jésus. Je sais que tu me laves, Seigneur, intérieurement. Je sais que tu me donnes ton Esprit Saint et que ton Esprit Saint, c'est lui qui me remplit de joie et de force encore et encore. Je sais, Seigneur, que c'est toi qui me rends capable de vivre en conformité avec ta bonne volonté. Et je sais que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour vivre une vie qui te rend gloire. C'est ce que je veux, Seigneur. Je veux vivre cette vie-là. Et je suis vraiment désolé pour la manière dont j'ai répondu à mon frère avant-hier. Je me suis fâché. Je sais que ma réaction l'a fait vraiment mal, qu'elle a attristé ton Esprit Saint. Et je peux imaginer que l'absence de joie en ce moment soit au moins en partie liée à ça. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi. Je veux être près de toi, pas loin de toi. Je veux te connaître, je veux que ta gloire se révèle dans ma vie. Et je te remercie parce que je sais que tu aimes exaucer cette prière-là. Tu es le Dieu de la paix et je te demande de rétablir la paix dans ma relation avec toi et aussi avec ce frère. Moi, je ne sais pas comment le faire, mais je sais que ton Esprit Saint est là avec moi. C'est l'esprit de l'unité et de la paix et il est là pour m'aider. Aide-moi, Seigneur, à m'humilier afin que je puisse demander pardon, reconnaître ma faute et chercher la réconciliation avec celui que j'ai fait mal. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce frère que tu aimes tant. Et je te demande de le bénir et de le réconforter, de l'encourager, de le ressourcer intérieurement. Je te demande de bénir sa famille, Seigneur. Je prie que notre relation soit une vraie bénédiction dans sa vie et dans ma vie aussi. Et je te demande, Seigneur, de nous rendre conscients de ta volonté dans cette situation de conflit. Je te connais, Seigneur, je sais que tu fais quelque chose, malgré notre péché. Je sais que tu vas accomplir quelque chose dans nos vies. Et ça m'intéresse de savoir ce que tu veux faire. Comment est-ce que cette situation va contribuer à notre progression dans la sainteté? Et de quelle manière est-ce que tu te serviras de cette situation pour révéler ta gloire? Bon, je ne vois pas clairement la réponse à cette question maintenant, Seigneur. Mais je sais que tu as l'œuvre pour nous transformer, pour que tous les deux, on ressemble davantage à ton Fils Jésus-Christ. Prépare-nous, Seigneur. Prépare-nous pour le jour de ton retour. On l'attend avec impatience. Aide-nous à trouver de la joie dans ce que nous vivons maintenant, sachant que notre souffrance actuelle nous prépare pour un héritage glorieux à venir. Nous le rejoindrons dans les airs, alors nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Peine et douleur cesseront, nous serons toujours avec lui, et dans sa gloire nous vivrons. Amen. Nous le rejoindrons dans les airs, alors nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Peine et douleur cesseront, nous serons toujours avec lui, et dans sa gloire nous vivrons. Amen. Amen. J'ai pris une longue prière pour vous donner un aperçu de ma vie de prière. Maintenant, si vous voulez prier de courtes prières, bien adaptées à un temps de prière en communauté pour répondre peut-être à ce passage, à ce que j'ai partagé aujourd'hui, je vous invite à le faire. Si vous voulez juste prier en silence, dans vos cœurs, n'hésitez pas. Et puis, dans quelques instants, donc je ne sais pas si on chantera. On chantera, ouais. Donc, prions.